fin d'année avec RTL.
RTL, revivre ensemble. The 20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 26 juin 1997. C'est le jour de la sortie du livre Harry Potter à l'école des sorciers en Angleterre. Nous sommes à Londres, par un joli jeudi ensoleillé du mois de juin. À la sortie de l'école, le jeune Robin, 10 ans, se plante devant une librairie de Chiswick. En vitrine, un livre a attiré son attention. À l'heure où tout le monde est en bras de chemise, l'ouvrage qui fait de l'œil à Robin a les couleurs de Noël. Rouge, vert et jaune. Son titre, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter, ce doit être ce petit garçon à lunettes qui met la main à sa bouche avec un air ébahi. Comme Robin, il porte son cartable sur le dos et une écharpe de style universitaire, rayée or et rouge. Certainement les couleurs de l'école de Hogwarts, qui semble être la destination du train dans lequel le petit Bigleux va monter. Immédiatement, Robin est attiré par l'ouvrage. Il sort de sa poche le billet de 10 livres que sa grand-mère lui a donné et s'engouffre dans la librairie. Dans quelques instants, Robin va basculer dans un autre monde. Harry Potter est un jeune orphelin. À l'âge de 11 ans, il apprend qu'il est sorcier. Il découvre alors un monde fait de magie, de créatures fantastiques. Il intègre l'école de sorcellerie de Poudlard. Il se lie d'amitié avec Hermione et Ron. Ils forment un trio inséparable et ensemble, ils affrontent des trolls, serpents et araignées géants et mènent la guerre à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Voldemort, l'assassin des parents de Harry Potter. L'histoire du petit sorcier sort de l'imagination d'une femme, mère célibataire, qui ne mange pas à sa faim et qui gratte du papier au fond des cafés londoniens. Elle s'appelle J.K. Rowling et elle a déjà toute l'histoire en tête. Une histoire qui tiendra en 7 tomes et 8 films. Nous sommes le 26 juin 1997. Robin ne le sait pas encore, mais ce livre qu'il tient entre ses mains en sortant de la librairie de Chiswick sera vendu 90 000 euros lors d'une vente aux enchères 22 ans plus tard. Bonsoir à tous, welcome, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir et pendant les fêtes, nous vous plongeons dans la saga Harry Potter et nous revenons même au tout début de cette aventure. Notre jour J est le 26 juin 1997. C'est le jour de la sortie du livre Harry Potter à l'école des sorciers. Laurent Marcy, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que je parle comme ça quand il y a une musique comme ça? C'est bizarre, c'est ça l'effet Harry Potter?
C'est ça.
Merci d'être avec nous en ce jour J. Vous êtes journaliste spécialiste jeunesse dans Laissez-vous tenter sur RTL. Mais en fait, ça n'est pas que pour la jeunesse Harry Potter.
Non, c'est pour la jeunesse, enfin c'est pour les enfants et c'est pour les adultes. Les adultes s'en sont emparés. Harry Potter, c'est le livre qui a décomplexé certains adultes qui ne lisaient pas, ouais, qui se sont mis à la lecture par les enfants parfois et puis par le phénomène que ça a engendré. Ça a touché tout le monde, ça a touché les adultes aussi.
Donc c'est ça qui est formidable en fait dans cette aventure d'Harry Potter, et vous en avez forcément parlé dans Laissez-vous tenter sur RTL puisque c'est là que l'on vous entend, Laurent Marcic, c'est qu'en fait c'est un livre et une saga intergénérationnelle. À un moment donné, moi j'ai vu des parents lire avec leurs enfants, les enfants lire avec leurs grands-parents. Ça a presque réuni les gens autour d'un genre de littérature.
Ça a bousculé la littérature jeunesse à l'époque. Et beaucoup de parents se sont interrogés, se sont demandé comment et pourquoi leurs enfants se mettaient à lire des livres de 700-800 pages.
C'est dingue.
Et du coup, la curiosité des parents a fait qu'ils sont tombés dedans et ils ont fait « waouh ». Voilà. Et effectivement, c'est parti comme ça. Même la découverte par la maison d'édition française Gallimard, oui, Jeunesse, ça arrive aussi par une petite fille et par un papa.
Bah, racontez-nous justement.
L'histoire de ce livre, pour la France en tout cas, on le doit à une formidable éditrice qui s'appelle Christine Baker, mm-hmm, qui est installée en Angleterre, est à Londres. Son mari a été le premier au monde à ouvrir une librairie jeunesse à Londres. Et en fait, J.K. Rowling, qui est totalement inconnue quand elle décide de proposer le premier tome d'Harry Potter, il arrive entre les mains de J.K. Rowling d'une façon assez rigolote. C'est que J.K. Rowling a essayé auprès de dizaines d'éditeurs de proposer son bouquin, ça n'a jamais marché.
Pourquoi ça ne fonctionnait pas ?
Ça ne fonctionnait pas parce que les gens trouvaient ça ridicule, et puis ils trouvaient que ça ne correspondait à rien. Mais même en France, ça a été un peu compliqué. Et elle va obtenir une bourse, comme ça existe en France avec le CNL, où on attribue des bourses de création, des bourses d'aide en fait pour les auteurs. Elle gagne cette bourse et la présidente de cette bourse, qui connaît Christine Baker, l'éditrice de Gallimard Jeunesse, lui dit: écoute, là on a un livre, c'est plutôt pas mal, tu devrais le lire. Et Christine Baker récupère ce livre, voilà, c'est un livre de plus, donc elle le pose dans sa cuisine. Et en fait, un matin au petit déjeuner, elle entend son mari et sa fille avoir une discussion passionnée sur Harry Potter. Elle se dit: bon sang. Elle le lit et elle tombe sous le charme complet de ce petit sorcier. Et elle le propose à son éditeur en France, donc Gallimard Jeunesse. Et la réaction est assez drôle. Enfin, avec le recul, c'est assez drôle. C'est qu'ils se disent: bon, c'est une histoire anglaise, ça se passe dans un pensionnat, ça va pas parler au monde français, c'est hyper long. Le type s'appelle Harry Potter, c'est super dur à prononcer. Il propose même de changer le nom et de l'appeler Henri Poitiers. et finalement, ils lui disent: bon, ok, tu l'achètes, mais pas trop cher. Et Christine Baker, en fait, va acheter avec une petite surenchère. Elle a désobéi à sa maison d'édition parce qu'elle y croit.
Ouais.
Elle l'achète. 3-4 jours après, les Américains arrivent et ils vont faire exploser les droits. Et en fait, la France est le premier pays étranger à avoir acheté Harry Potter.
Et on est passé, effectivement, avant les gros Américains.
On est très très fan de Christine Baker.
Voilà, bravo, et on lui fait un petit coucou. Ce livre, il est incroyable. Alors, ne serait-ce que de par son apparence, parce que en fait, Harry Potter, c'est tout un univers aussi, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Et un univers qui, parfois, a repoussé les éditeurs en Angleterre, qui disaient: non, mais attends, on peut rien faire avec une histoire pareille, c'est hyper compliqué, les personnages. Moi, je vous avoue, je connais assez peu, et je suis complètement perdue devant Harry Potter. Donc, il y a une recette magique, c'est laquelle ?
La première recette magique, c'est qu'elle a créé un personnage que les enfants ont pu suivre, c'est-à-dire qu'il a grandi avec les lecteurs. Il démarre, je crois, sauf erreur de ma part, il a 8 ans, et il finit, il est beaucoup plus grand, il est quasiment adulte. Et en fait, les lecteurs ont grandi avec Harry Potter. Le premier roman est plutôt enfantin, hein, premier, c'est à l'école des sorciers. C'est un petit gamin qui rentre dans une école de sorciers, qui se fait des copains, des copines, etc. Il y a une ombre qui plane, qui est celle de Voldemort, mais pas encore. Voilà. Le dernier livre, et on est dans de la littérature quasiment adulte.
Il paraît que son autrice, dont on va parler dans un instant, J.K. Rowling, et puis qui a une vie aussi absolument incroyable, parce que c'est un destin magique aussi pour elle, pas tant que ça, parce que c'est vraiment du boulot d'écrire Harry Potter et autant de tomes, parce qu'il y a 7 tomes, il paraît que J.K. Rowling savait justement à l'avance tous les scénarios qui allaient venir. Oui. Elle avait déjà une idée de la saga avant même d'écrire, je dirais, les premiers chapitres.
Quand elle signe avec Bloomsbury, qui est son premier éditeur, et avec Gallimard, qui ne s'était engagé que sur le premier. Mais on savait qu'elle avait écrit les 7, on savait surtout, enfin pas qu'elle avait écrit les 7, on savait qu'elle avait dit: j'ai écrit le premier et la fin est déjà écrite. Donc elle avait déjà tout en tête. Mais c'est l'histoire d'Harry Potter, c'est quelque chose qu'elle porte depuis son enfance. Ça a été tout d'un coup une illumination pour elle à un moment donné, ce qui lui a permis d'écrire, mais c'est quelque chose qu'elle porte depuis son enfance. Tous les personnages qui sont à l'intérieur sont des personnages qui ont peu ou prou existé en fait autour d'elle.
Voilà. Et elle a mis des personnes qu'elle connaissait dans le livre.
Pour certains, oui. Par exemple, Potter, c'est un garçon qui s'appelle Ian Potter, qui était un ami d'enfance à elle, qui avait un côté un peu expiègue. C'était le garçon qui faisait un peu les 400 coups, un peu rebelle, un peu Harry Potter. Dumbledore, c'est son directeur d'école primaire, on va dire, qui s'appelait Monsieur Dumb. Rogue, c'était son professeur de chimie qu'elle détestait, etc. Et il y a un personnage qui lui correspond, c'est Hermione Granger, qui est la besogneuse, celle qui est tout le temps dans les livres, etc. Ça correspond à J.K. Rowling. Et ça correspond aussi à J.K. Rowling sur un autre truc, c'est que Hermione, c'est la moldue en fait. Elle n'est pas de sang noble et pur, elle n'est pas une vraie sorcière, elle n'a pas de parents sorciers. Et en fait, J.K. Rowling, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est l'écrivaine qui... je ne vais pas dire que c'est l'imposture, mais c'est celle qui ne pensait pas faire partie de ce monde-là.
Eh bien justement, on va en parler dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. On se quitte d'un coup de baguette magique et on se retrouve dans un instant avec, j'allais dire J.K. Rowling, mais également Laurent Marsic dans Georgie. À tout de suite.
Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez ? Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ses sornettes.
Vous le saviez ? Vous l'avez toujours su et vous ne m'avez rien dit !
Oui, nous le savions. Il ne pouvait être qu'un sorcier.
Jusqu'à 20h-21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Et aujourd'hui, on voyage dans un univers, l'univers d'Harry Potter. Dans un instant, on va parler d'Harry Potter au cinéma avec Stéphane Boutsock qui va nous rejoindre, qui est journaliste cinéma, vous le connaissez à RTL. Mais pour l'heure, nous sommes avec vous, Laurent Marcy, qui en parle de la saga Harry Potter qui a vu le jour en Angleterre le 26 juin 1997. Car avant d'être des films, du cinéma, du marketing, un musée, un studio, avant d'être finalement un monde tout entier, Harry Potter, c'était un livre, un manuscrit plusieurs fois refusé, je crois une douzaine de fois, avant que cette fameuse J.K. Rowling puisse devenir écrivain, puis milliardaire. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, J.K.
plus riche que la reine d'Angleterre.
Elle est, exactement, elle est plus riche que la reine Elisabeth. Alors, J.K. Rowling, c'est qui ?
J.K. Rowling, c'est comment dire, c'est une survivante comme Harry Potter et meurtrie par son passé.
Elle a une vie romanesque, hein.
Ouais,
et un début de vie romanesque.
C'est pas forcément, c'est pas une belle histoire en fait. L'histoire de J.K. Rowling, c'est une jeune fille assez renfermée sur elle-même. Elle le dit elle-même, hein, elle était binoclarde, elle était le nez dans les livres, etc. Elle a des parents qui sont militaires puis qui vont arrêter leur carrière de militaire. Et ensuite, elle va pas avoir une vie extrêmement drôle. Elle rêve de devenir écrivaine. Ses parents l'encouragent, mais ils lui disent quand même, voilà, faut avoir un vrai métier. C'est pas un vrai métier pour eux. Donc elle va quand même faire des études pour devenir secrétaire, etc. Elle va surtout avoir une expérience très douloureuse et très dure quand elle va aller vivre au Portugal avec un mari qui est là-bas.
Elle a été victime de violences conjugales.
Elle s'est retrouvée au moment où elle obtient sa fameuse bourse pour créer Harry Potter et pour travailler dessus. Elle est, je ne vais pas dire SDF, mais elle n'est pas loin. Elle a plus un sou en poche. Et cet argent va lui permettre de pouvoir nourrir ses enfants, garder ses enfants pour qu'elle puisse se consacrer
donc
à l'écriture.
Ça, c'est pas du storytelling.
Non,
c'est-à-dire, J.K. Rowling qui est en train de travailler dans un bistrot et qui écrit la saga Harry Potter en espérant peut-être s'en sortir et gagner quelques shillings, ça n'est pas du délire, c'est pas du storytelling.
C'est pas du cinéma, elle raconte même que parfois elle a préféré acheter des rubans pour sa machine à écrire plutôt que manger. Elle avait tellement pas d'argent qu'elle ne pouvait même pas faire de copie de son manuscrit, donc elle le tapait en double.
Besogneux, laborieux, dans le besoin.
C'est l'histoire de la princesse Sarah, à l'envers. C'est-à-dire qu'elle c'était quelqu'un de très pauvre qui est devenu immensément riche. C'est quelque chose qui lui est tombé dessus. Vraiment, c'est un conte de fées pour le coup.
Parce que Harry lui a sauvé la vie, quoi, Harry Potter.
Harry lui sauve la vie. Il lui sauve la vie dans un train où elle est un peu désespérée. Un soir où elle rentre du boulot, elle va passer 7 heures dans ce train. Et tout d'un coup, elle imagine un gamin qui monte dans le train et qui part pour une école qui s'appelle Poudlard en France, Hogwarts en Angleterre. Et quand elle rentre chez elle, elle a déjà quasiment toute l'histoire qu'elle note sur un carnet et elle va effectivement nourrir cette histoire en allant travailler dans des cafés. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a un compte sur les réseaux sociaux et régulièrement elle montre une photo d'un restaurant ou d'un ancien café en disant bah tiens là c'est là qu'est né le Quidditch. Dans un parc elle dit bah là c'est là que j'ai pensé aux baguettes magiques et dans le chemin de traverse, etc. C'est assez fabuleux de voir tous ces lieux et puis de voir comment elle a imaginé tout ça et comment elle a travaillé, quoi.
Donc elle partage parce que elle a compris aussi en cours de route, avec la réussite venant, elle a compris aujourd'hui comment fonctionnait le monde du marketing. Est-ce que aujourd'hui, J.K. Rowling, donc on le disait, qui est la femme la plus riche d'Angleterre, est-ce que cette femme contrôle l'ensemble de l'univers Harry Potter ?
Au début, oui. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il y a le cinéma, il y a des studios, etc. Donc il y a tout un marketing qui existe, qui n'existait pas avant.
Parce qu'il faut se préparer quand même d'ordinaire à ce genre de choses. Ça lui est un peu tombé sur le coin de la vie façon magnifique, mais en même temps.
Elle était plutôt bien entourée pour ces choses-là. Mais après, c'est vrai qu'elle avait posé quelques conditions. Moi, je me souviens sur les premiers produits dérivés qui sont sortis sur Harry Potter, elle avait interdit, par exemple, qu'il y ait du rose. Elle ne voulait pas de t-shirt rose avec marqué Hermione Granger, etc. Pourquoi ? Parce que le rose, elle disait, ça n'existe pas. Dans Harry Potter, il n'y en a pas. Elle ne voulait pas non plus qu'il y ait des bonbons, choco-grenouilles, etc. Ce que mangent les enfants Harry Potter, Harry Potter et ses copains dans le train.
Elle a refusé que McDo, par exemple, aussi.
Oui, exactement. Elle
ne
voulait pas participer. Elle disait, je ne veux pas que ça participe à la malbouffe, etc. Après. Je pense que ça lui a un peu échappé parce que tout ça, Stéphane pourra le confirmer, mais tout ça existe aujourd'hui.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes sage.
Mais j'écoute mon camarade.
Mais oui, mais vous êtes d'un calme.
Mais j'écoute, j'apprends plein de trucs en plus.
Mais oui, parce que alors justement, vous allez nous parler d'Harry Potter au cinéma. Et c'est intéressant parce que Laurent Marcy s'est tourné vers vous. Pourquoi Stéphane Boutsock, alors que vous êtes effectivement journaliste cinéma à RTL, on connaît votre voix et on connaît vos critiques de cinéma. Pourquoi est-ce qu'effectivement Laurent Marcy nous dit finalement, tout ça qui n'était pas prévu, c'est produit. Est-ce que vous pouvez répondre ?
Après le succès des bouquins, qui a été colossal assez rapidement, évidemment, ça ne pouvait pas ne pas intéresser les studios. Et en l'occurrence, c'est Warner, qui est un des immenses studios mondiaux, qui a acheté les droits d'Harry Potter pour une série de films. Donc il y en aura 8 au total. On va en parler avec des chiffres là aussi absolument colossaux. Et puis une fois que l'aventure d'Harry Potter s'est arrêtée, parce que le roman à un moment se termine, l'aventure se termine, chez Warner, c'était quand même embêtant, parce que ça rapportait grosso modo entre 800 et 900 millions de dollars tous les ans, cette histoire-là.
Bonne grosse poule aux œufs d'or.
Donc, sont arrivés les Animaux Fantastiques, qui sont un dérivé. Et puis, à mon avis, c'est pas fini, parce que là, on est sur une trilogie, il y aura d'autres choses, parce que l'univers d'Harry Potter, il est d'une richesse absolue. Il y a des créatures, il y a des univers, il y a des personnages qui n'ont pas été creusés. Donc, on remonte le temps, là, pour les Animaux Fantastiques.
Ouais.
Rien ne nous dit qu'on n'ira pas voir ce qui se passe du côté des enfants d'Harry et de tous les autres un peu plus tard.
En fait, ce que l'on entend à travers ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, l'univers Harry Potter peut être sans fin.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, même si ce sont 7 tomes, 7 films, plus un 8e dont on va parler dans un instant, ce sont finalement des fenêtres qui s'ouvrent sur encore d'autres fenêtres, sur d'autres fenêtres, et on a l'impression, effectivement, que c'est à l'infini. On va se retrouver dans un instant. Du coup, maintenant que je vous ai tous les deux, je vous garde. Et ce sera tout de suite pour la suite de Jour J. C'est quoi cette musique qui fait peur ?
La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses.
20h, 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
On parle d'Harry Potter. Harry Potter, ça n'est pas juste un petit apprenti magicien. Non, Harry Potter, c'est tout un monde, tout un univers. On est parti des livres avec vous, Laurent Marcy, qui est effectivement ces fameuses pages de livres qui un jour se sont animées pour en faire des films sur grand écran. Et c'est la raison pour laquelle vous nous avez rejoint, Stéphane Boutsock. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Vous êtes un peu mes Ekel et Jekyll de la soirée.
Ah,
et...
Je prends Ekel.
Et ça me fait bien plaisir. Merci aussi pour nos auditeurs, parce que aujourd'hui on rentre dans un univers que beaucoup connaissent. Moi, je dois confesser que j'ignore un petit peu, donc vous êtes un peu mes guides dans l'univers d'Harry Potter. Et il faut préciser aussi que ça se passe à RTL, sur l'antenne d'RTL, RTL Laurent Marcy, qui est partenaire depuis le début, en fait, finalement, d'Harry Potter.
On doit ça au créateur de Laissez-vous tenter, Stéphane de Pasquale, qui à l'époque chroniquait tout ce qui était jeunesse, etc. Il a tout de suite cru en Harry Potter, et RTL a accompagné effectivement Harry Potter dès le départ. Et Stéphane a même eu l'immense chance pour les derniers tomes de pouvoir lire les manuscrits dans une salle avec un garde du corps.
C'est pas vrai.
De déposer les portes à l'entrée, bien sûr. Mais il y avait tout un barnum pour l'arrivée des Harry Potter en France, parce qu'ils sortaient, évidemment, il y avait des sorties qui étaient organisées quand ça a commencé à devenir un énorme
phénomène.
Et les libraires avaient des scellés sur les cartons. Ils n'avaient pas le droit de casser les scellés avant une heure dite. Les livres étaient acheminés par convoi de la Brinks avec.
Non, mais c'est dire si effectivement c'est un événement, c'est un phénomène, et c'est un trésor, quoi.
Bien sûr.
Un trésor qui rapporte beaucoup. Alors, ça a rapporté beaucoup dans l'édition, ça on l'aura compris, Laurent Marcy.
Toujours.
Alors, au cinéma, là, bing !
Alors, au cinéma, c'est la troisième saga qui a rapporté le plus d'argent après James Bond, mais il y a quand même 25 films James Bond.
Ouais.
Et après Star Wars, il y en a 9 pour l'instant, enfin, et quelques
produits
dérivés.
Ils n'ont pas tous les mêmes arguments.
Mais on est quand même sur du 8,5 milliards de dollars de recettes, donc c'est absolument colossal, parce que l'intelligence de Warner, comme le dernier tome, bouquin des aventures, Les Reliques de la Mort, eux, ils l'ont séparé en 2 films, parce qu'il y a quand même l'idée de... Quand même, ça reste une opération commerciale
Bien sûr,
pour le studio. Mais oui, c'est absolument colossal, et c'est pour ça qu'après, il y a les Animaux Fantastiques maintenant, et qu'on n'est pas à l'abri d'autre chose, en effet, parce que c'est une manne financière. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a le studio qui se visite à Londres, il y a des tonnes de choses, il y a des expos itinérantes dans le monde entier, il y a des parcs d'attractions universales aux États-Unis où on peut vivre, il y a carrément des villages Harry Potter qui ont été recréés.
Vous allez nous faire voyager dans tout ça tous les deux. Je voudrais qu'on revienne sur la sortie du premier film. Donc, le premier livre en Angleterre sort en 97, le 26 juin. Il arrive en 98 en France, Laurent Marcy. Et alors, le premier film ?
3 ans plus tard, décembre 2001 en France.
C'est rapide quand même, parce que c'est une production hollywoodienne.
Oui, c'est 3 ans, c'est pas mal. Le plus difficile, c'était de faire le casting. Il fallait trouver les gamins. Et puis, c'était un pari sur l'avenir, parce qu'il y avait déjà l'idée d'adapter tous les bouquins. Donc, les enfants, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Watson et Rupert Green, qui sont les trois acteurs principaux, il y avait quand même l'idée de les faire grandir, et on en reparlera. C'est aussi ce qui est intéressant dans les films, c'est que ces gamins, on les a vus à 11, 12 ans, et on les a lâchés, c'était des adultes. Ouais. Et ils grandissent en même temps que leur héros. Ça, c'est une aventure totalement unique au cinéma. Ce qui est très troublant, c'est que le premier film, donc, il arrive en décembre 2001, et on le confie à Chris Columbus. Chris Columbus, c'est le monsieur qui a fait Maman, j'ai raté l'avion, qui a fait Madame Doubtfire. Donc, c'est un réalisateur américain qui est spécialisé dans le film familial, la comédie enfantine, bon enfant. Et plus les films vont avancer dans le récit et dans le temps, et plus les réalisateurs qui vont arriver seront des réalisateurs adultes. Le Prisonnier d'Azkaban, par exemple, qui est le plus gros succès de la saga, on le confie à Alfonso Cuarón, qui est le monsieur qui fera Gravity après. Les derniers, les quatre derniers, on les confie à David Yates, qui vient du cinéma d'auteur pratiquement, et c'est vrai que le ton des bouquins comme des films est extrêmement sombre, ça parle de deuil, de sacrifice, de solitude, et visuellement les films n'ont absolument rien à voir. Ils repassent régulièrement à la télé, regardez-les, vous regardez Harry Potter à l'école des sorciers et vous regardez le diptyque, les deux parties des Reliques de la Mort, ça n'a plus rien à voir.
Donc c'est un voyage en fait, ce que vous nous racontez.
C'est un voyage dans le temps, dans la tête d'Harry Potter, dans la tête de Voldemort aussi, son ennemi mortel. Oui, c'est un voyage, c'est une épopée de cinéma et une épopée de littérature qui est unique dans l'histoire.
Et puis cette idée effectivement d'un partage. Alors on parlait du partage intergénérationnel, Laurent Marsic, mais effectivement tout le monde a vieilli en lisant. Tout le monde a vieilli en allant au cinéma. Et tout le monde avait ça en commun, de voir ce temps passer. En fait, on a l'impression que le film vit avec nous, quoi. Enfin, vieillit avec nous. Le livre.
Et c'est aussi un livre qui bénéficie de quelque chose de formidable, c'est la transmission. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants qui ont lu Harry Potter, son parent, font lire Harry Potter à leurs enfants. Moi, je regardais tout à l'heure sur notamment les palmarès de vente. Harry Potter n'a jamais quitté les palmarès de vente des 10 meilleures ventes de livres en France. Il y a encore l'école des sorciers qui est 5e, je crois, et il y en a un autre qui est 6e ou 7e. Ça n'a jamais quitté ces palmarès. Et puis après, c'est nourri. Ils font des rééditions en permanente. Hein. C'est celle que je vous ai emmenée là. C'est une édition collector qui va sortir, illustrée par un studio graphique qui s'appelle Minalima. Ce sont des éditions uniques. Enfin, c'est réalimenté en permanence par des nouveaux livres, si la saga est terminée.
Et c'est pareil pour les films. Non seulement ils passent très souvent à la télé, et ça fait quand même autour de 4-5 millions de spectateurs à chaque fois. Alors, c'est une saga qui a fait autour de 60 millions de spectateurs en France, qui est là aussi colossal. Mais c'est pareil, il y a eu les DVD, et puis il y a eu les coffrets, et puis il y a eu les coffrets spéciaux, et puis il y a eu les coffrets super spéciaux.
Mais
bien sûr, mais c'est aussi une aventure économique.
Est-ce que les films sont l'exacte réplique au cinéma des livres? Est-ce qu'il y a une charte? Est-ce qu'il y a une Bible? Est-ce qu'on ne peut pas toucher Harry Potter? Est-ce que certains réalisateurs ont eu la liberté aussi de s'amuser avec le texte ou avec l'histoire?
Il y a une liberté de forme, c'est-à-dire, d'accord, je vous le disais, les films ne sont pas les mêmes. Il y en a plus sombres, il y en a des plus spectaculaires, il y a des effets spéciaux, mais il n'y a pas de personnages rajoutés. Ça, je crois que J.K. Rowling a été assez clair dès le départ avec Warner, qui a acheté les droits. On achète une œuvre, mais on la respecte. Et moi, je trouve que c'est extrêmement fidèle. Pour avoir lu les bouquins et vu les films, je trouve que c'est très, très, très fidèle.
On va au musée dans un instant ?
Oui.
Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du studio, du musée, mais c'est la même chose.
Oui.
Alors, je vous garde tous les deux. Oui, Michael et Jekyll. À tout de suite.
Le Quidditch a des règles assez simples. Chaque équipe a 7 joueurs. 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. Toi, il y a 3 sortes de balles. Celle-ci s'appelle un swaffle. Les poursuiveurs se passent le swaffle et essaient de le lancer à travers un de ces 3 cercles. Le gardien, c'est moi, défend les buts. Tu me suis ?
Oui, je crois.
Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
J'ai un chapeau pointu, j'ai une petite baguette magique. Oui, messieurs, pourquoi vous me regardez comme ça, Stéphane Boutsock ? Il faudrait que j'ai quoi aussi ? Une cape ?
Oui, une cape
pour être dans l'univers. Ah oui, alors c'est ça aussi, dites-moi. Harry Potter, paf ! Je vous laisse l'antenne.
Il a quelques objets magiques. Il y a la baguette. Enfin, chaque magicien qui arrive à Poudlard...
À sa baguette, comme un académicien peut avoir son épée.
Il choisit sa baguette ou c'est même plutôt la baguette qui choisit le magicien.
C'est souvent comme ça que ça se passe, parce qu'il faut préciser effectivement que c'est un univers où les objets ont une âme.
Ah bah bien sûr, il y a un chapeau qui parle, il y a plein de choses, bien sûr. Le chapeau.
Le choix pot magique, c'est celui qui choisit.
Alors, dans ce studio, aujourd'hui, Stéphane Boutsock et Laurent Marsic, merci beaucoup à vous deux d'être nos invités pour parler effectivement de la saga Harry Potter qui a vu le jour en Angleterre en 1997 avant d'inonder la planète tout entière. Et pendant ces fêtes de fin d'année, on se dit qu'évidemment, il doit y avoir du Harry Potter partout, messieurs.
Oui, dans les librairies, bien sûr.
Mais voilà. Oui. Il y a toujours du Harry Potter pour
toujours.
Noël.
Mais ils ont fait aussi, il y a des Monopoly, il y a eu beaucoup de produits dérivés, il y a des jeux de société Harry Potter, bien sûr.
Tout est fait, en fait, pour faire vivre Harry Potter. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur l'univers que l'on retrouve dans les films et qui, quelque part aussi, a trouvé son origine dans les livres, Laurent Marsic. Et en fait, J.K. Rowling, c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux. De tout ce qui est fantastique. Et on retrouve ça, en fait, dans les films.
On retrouve plein de choses. Elle est fan aussi d'un livre que vous avez forcément lu, qui s'appelle Le Club des Cinq.
Ah bah attends, j'ai été élevée à ça.
Le Club des Cinq, c'est cette histoire d'amitié entre tous ces mômes. Ouais. Elle est fan, effectivement, du Seigneur des Anneaux, qui est assez rapidement devenu son livre de chevet. On peut voir, ce serait spoiler totalement les histoires, mais l'anneau de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, renferme quelque chose, exactement comme les Horcruxes, c'est-à-dire là où Voldemort a
laissé des traces.
Laissé des traces, on va dire ça comme ça. Il s'est éparpillé dans plein d'objets. Harry Potter et ses amis doivent détruire, s'ils veulent détruire un jour Voldemort.
Donc en fait,
il y a des vrais parallèles.
Oui. Donc on voit les passerelles en fait entre le Seigneur des Anneaux et entre Harry Potter quand on connaît effectivement et quand on s'intéresse à ce genre-là. Les animaux fantastiques, c'est assez particulier parce que là, il y en a eu deux.
Il y en aura un troisième assez rapidement, il faut qu'il soit tourné, le Covid a un peu compliqué les choses.
Voilà, mais pour ceux qui connaissent Harry Potter, en fait, il y avait 7 tomes et les animaux fantastiques n'existaient pas.
Pas du tout, et ils sont à peine évoqués. Et dans la saga Harry Potter cinéma, c'est un tout petit passage. On fait mention d'un recueil dans lequel sont consignées des créatures fantastiques.
Alors, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, on a dit chez Warner, ça serait quand même bête qu'on s'arrête là. Si on imaginait autre chose, J.K. Rowling a été engagée comme scénariste et on a écrit une trilogie qui nous plonge. Alors Harry Potter n'est pas né à l'époque, c'est dans le passé. On est dans la jeunesse de Dumbledore. C'est Jude Law qui joue le personnage dans cette nouvelle saga. Mais toute la magie est là, on se balade. Le premier volet est tête de mémoire. On s'est baladé entre Londres et Paris. Le troisième doit se passer à Rio. Comme il voulait tourner dans les villes, ça c'est un tout petit peu...
Ça c'est compliqué. Forcément, voilà. Et encore plus au Brésil, évidemment, depuis l'épidémie de la Covid. Stéphane Boutsock, est-ce que c'est compliqué, parce que vous nous citez effectivement des noms qui sont célébrissimes pour pouvoir interpréter les personnages de la saga Harry Potter, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de créer le casting d'Harry Potter? Ou est-ce qu'on peut faire venir comme ça n'importe qui en claquant des doigts? C'est un coup de baguette magique.
Alors, pour les animaux fantastiques, ils ont engagé un acteur qui est très connu, qui s'appelle Eddie Redmayne, qui joue un magicien. Jude Law, donc, qui joue le jeune Dumbledore. Ce qui était compliqué pour la première saga, c'est qu'il fallait 3 gamins qui étaient évidemment totalement inconnus. Donc Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui sont devenus aujourd'hui multimillionnaires, ce qui veut dire aussi que leur carrière... Ils ont fait des vrais choix. Radcliffe, il fait beaucoup de théâtre, par exemple. Ça, voilà, on l'a pas revu dans grand chose de marquant au cinéma. Il fait des films de genre. On l'a vu dans Insaisissable. Mais il fait beaucoup de théâtre. Emma Watson, c'est sans doute celle qui s'en est le mieux sortie.
Extraordinaire, Emma Watson. Elle a une carrière à Hollywood. On en oublie presque finalement son personnage dans Harry Potter,
Absolument.
D'Hermione.
Et Rupert Grint, alors lui, il fait exactement ce qu'il veut. Il fait des petits films d'auteur. Il s'amuse, mais dans l'absolu, ils ont plus besoin de travailler, ces gens-là, vous voyez. Mais ce qui était intéressant, c'est que Harry Potter était peuplé d'acteurs stars connus. On voit, c'est Ralph Fiennes qui joue Voldemort, on croise Emma Thompson, on croise Gary Oldman, on croise Kenneth Branagh. Il y a la crème de la crème des acteurs britanniques qui sont là et que l'on retrouve dans des rôles emblématiques. Mais à la base, les 3 acteurs, évidemment, c'est des inconnus.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une saga qui a commencé avec 2 jeunes acteurs que personne ne connaissait, qui étaient l'adaptation d'un livre qui, 3 ans avant, était une aventure incroyable, écrite finalement au fin fond des bistrots londoniens par une femme qui courait après l'argent.
Mais c'est de la magie depuis le début, en fait.
Exactement. Et c'est ça, en fait. C'est une histoire comme on en voit peut-être peu aussi. C'est-à-dire que c'est un conte de fées qui amène effectivement à des films absolument hallucinants, quoi.
Bah, tout à fait.
On va se retrouver dans un instant parce que vous m'avez dit je vous emmène au musée. On n'y est toujours pas allé, je vous signale. On a fait un petit détour par le cinéma. Comment vous faites ? Bah non, ça marche pas.
On va réessayer.
Bon, alors attendez, je vais essayer moi dans un instant, on verra si ça fonctionne.
Harry Potter, nous revoilà face à face.
Voldemort.
Oui.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Avant d'aller faire un tour au musée.
Ah oui, hein.
Ouais, ouais, non, mais attendez, c'est bizarre. Dans cette émission magique qui vous plonge dans l'univers d'Harry Potter, avant d'aller au musée, on va revenir quand même sur une réflexion qu'on se faisait à un instant hors antenne, Laurent Marsic et Stéphane Boustock, c'est que les comédiens d'Harry Potter, Laurent Marsic, me disiez-vous, ont été quelque part protégés parce qu'ils ont joué et incarné ces rôles de héros très jeunes.
Enfants, oui.
Enfants. Ouais. Donc c'est pas un truc qui va leur coller à la peau pendant toute leur carrière. Ils ont du temps pour s'en défaire aussi.
On n'est pas dans le cas de Peter Falk qui a eu beaucoup de mal ensuite à se débarrasser de son personnage de Columbo.
Son impère et sa femme de Columbo.
C'est ce que Stéphane racontait à l'instant, mais c'est vrai que ils sont enfants et aujourd'hui ce sont devenus des adultes avec toute la richesse qu'ils ont pu emmagasiner depuis ses premiers rôles.
Vous les avez vus régulièrement, j'imagine.
En fait, il y avait un film par an, donc tous les ans, vers le mois de novembre, on allait à Londres, à l'Eurostar, on arrivait dans un grand hôtel qui s'appelle le Claridge à Londres. Tout un étage était réservé. Il y avait un acteur par suite, par chambre, les journalistes.
Donc vous étiez dans le couloir, vous passiez de chambre en chambre.
On attendait, il y avait des chaises devant la chambre, on disait c'est à toi, t'as 6 minutes avec Daniel. Bonjour.
Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Bien sûr. Et d'année en année, ce qui est marrant, c'est il fait 1m70 maintenant, le dernier, il est 1m55. il a de la moustache.
Il me déplace
Daniel.
Maintenant.
Bonjour. Emma, elle a une bague cette année. Ah, elle a un petit copain, mais c'est marrant de les voir grandir sur 10 ans, c'est génial.
C'est surtout que vous vieillissiez en même temps.
Alors moi, je ne bouge pas.
Voilà, donc, c'est ça, pardonnez-moi.
C'est même un truc.
Bon, alors, on y va au musée ou pas?
Allez.
Voilà, ça y est, c'est parti. Où est ce musée Laurent Marsic?
Dans la banlieue de Londres. C'était installé dans les studios, là où ils ont tourné une bonne partie des Harry Potter. Il y a la grande salle commune.
Ouais.
J'ai vu ça. Il y a aussi l'endroit où Harry habite avec son oncle et sa tante, infâme, qui est à l'extérieur.
Ils ont reproduit une rue avec les maisons, mais c'est colossal. On peut y aller, c'est ouvert. Ça coûte un peu cher. Ouais. J'ai plus le prix en tête, mais ça coûte un peu cher. Il faut réserver très longtemps à l'avance, et surtout aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire entrer 15 000 personnes en même temps. Mais c'est génial, parce qu'il y a tous les costumes, il y a des pans entiers du décor. Vous savez, ceux qui ont vu, alors Flavie, vous découvrirez peut-être ça, il y a une salle où ils mangent à Poudlard, qui est une immense salle. Elle est reconstituée, mais c'est incroyable.
Ce qui est drôle, c'est que dans cette salle, quand on est allé visiter ça avant l'ouverture, on avait été invité là-bas, c'est qu'ils ont tous laissé des traces dans les décors. Par exemple, sur la table, j'ai essayé de zoomer pour voir dans les films. En fait, la grande table de la salle commune est couverte de graffitis qu'ils ont tous gravés au fil des tournages, au fil des ans, etc. Souvenirs de machin, etc. Il y a la fameuse boutique où ils achètent leur baguette magique dans le chemin de traverse. Et en fait, on voit à l'écran effectivement qu'il y a des noms. Enfin, sur toutes les baguettes, il y a des noms.
Ouais.
Ben, figurez-vous que les noms, ce sont des noms qui correspondent vraiment à des gens. Ce sont tous les gens qui ont travaillé sur les films d'Harry Potter.
Génial.
Mais ça va du balayeur du studio, en passant par la cuisinière, le réalisateur, les acteurs. Ils sont tous dedans. Et tout ça, c'est nous, quand on voit les films, on ne le sait pas. Quand on va visiter le musée, donc on se dit, ah tiens, il y a une dédicace de Radcliffe là, à cet endroit-là.
Ouais.
Donc c'est marrant. Ah mais tiens, il y a Ron qui a mis un petit mot.
Puis prévoyez un peu de sous pour acheter, parce que la boutique, évidemment, on termine la visite par la boutique, vous en doutez.
Parce qu'on a bien compris que tout ça, c'était payant quand même.
C'est payant.
Oui. Et que tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent.
Et puis il y a tout. C'est-à-dire, n'y allez jamais avec vos enfants. c'est un truc. Pas.
Et le problème par la boutique, on peut pas sortir.
Voilà, bien sûr, c'est toujours comme ça. Mais dans les musées, c'est la même chose, mais ça leur fait pas le même effet, effectivement, aux enfants.
Surtout qu'on peut tout acheter. Vous pouvez acheter votre baguette, votre
le Nimbus 2000. Moi, j'ai failli l'acheter, mais il est trop cher. Le Nimbus 2000.
C'est le balai. C'est le balai, Flavie.
Non, mais justement,
c'est le balai qui reçoit en cadeau. Il y a la reproduction.
Et alors, c'est quoi trop cher?
Ah ben
trop cher, on est à plusieurs milliers d'euros.
Ah bon?
Ah mais bien sûr.
Ah oui, d'accord. Okay.
Vous pouvez boire de la bière au beurre, qui est la boisson. Vous pouvez, Lolo en parlait, vous pouvez manger les chocos grenouilles. On peut tout acheter.
Donc, il y a un restaurant avec on peut
sortir aussi. J'avoue, c'est un guide touristique là.
Le citrouille et tout ça.
Non mais vous savez quoi? C'est que je vous regarde et je me marre parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir deux enfants. en face de moi.
Mais c'est un
et c'est là que je me rends compte aussi de la puissance de l'univers d'Harry Potter. C'est que vous, quand vous me racontez votre visite au musée, on a l'impression qu'on peut vous mettre dans l'Eurostar et que vous y retournez direct. Et ça, voilà. Et je crois que c'est toute la force, en fait, de cette saga. Alors, c'est une recette magique qui nous échappe peut-être un petit peu et que vous comprenez sûrement davantage que moi. Mais en fait, ça va toucher tout le monde et ça va aller titiller une sorte de fibre enfantine chez chacun de nous qui fonctionne à tous les coups.
Mais parce que vous y trouverez forcément quelque chose qui vous ramène à votre histoire.
Oui.
Il y a ça, forcément.
Et il y a le tour de force qu'elle a eu quand même, parce qu'on l'a pas dit, c'est que J.K. Rowling, il y a des personnages principaux qui meurent.
Ouais.
Ça c'était nouveau.
Ah ouais.
Ça n'existait pas. Et c'était aussi la première fois qu'on parlait de mort à ce point-là dans des livres.
Mais pourquoi vous dites que c'est nouveau ? Parce qu'on en connaît même les contes qu'on raconte à nos enfants. Il y a les parents qui meurent, il y a des enfants qui sont abandonnés.
Des personnages qui sont vraiment essentiels à l'histoire, qui vont disparaître.
Qu'on peut retrouver dans d'autres séries plus tard aussi. Enfin, je pense à Game of Thrones où effectivement les trois premiers épisodes, bon, je ne sais pas si je vais spoiler quelque chose, toutes les têtes tombent, quoi.
Ouais.
Et où on est scotché. Donc ce que vous voulez dire, c'est que même des personnages auxquels on s'attache.
Ah oui.
Ah, mais moi j'ai cru jusqu'à la fin qu'Harry Potter allait mourir. C'était possible avec elle. C'était ça le truc qui était génial. C'est que c'était possible. Parce qu'elle en avait fait mourir.
Elle en zigouille quelques-uns importants.
J'allais vous demander.
Ah ben ouais.
Bah, faut bien zigouiller quand on est auteur. Ah non, vous ne dites
non, faut pas.
Pas
dire. Mais moi, je vais vous dire, vous voulez que je sois honnête, moi j'ai pleuré.
Il y a un moment.
Il y a un moment qui est juste fou.
Ouais.
Vous êtes vraiment mignon. Hein. Je vous remercie vraiment, et l'un et l'autre, d'avoir accepté mon invitation. À partir de quel âge peut-on se mettre à Harry Potter, selon vous, Laurent Marcic?
Les bouquins de 8 ans. Oui, les bouquins.
7-8 ans.
Oui.
Les films, on peut commencer aussi par les premiers, parce que les premiers sont vraiment très mignons. Enfin, il y a quand même quelques scènes. Voldemort, il fait peur quand même.
D'accord.
Mais oui, à partir de 8 ans. Pour les films. Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Ekel et Jekyll, je vous souhaite de belles fêtes. Vous allez disparaître dans un instant d'un petit coup de baguette magique. Merci beaucoup, Laurent Marcic. On vous retrouve dans Laissez-vous tenter, évidemment, sur cette antenne. Stéphane, vous aussi, c'est pour ça qu'on vous a invités tous les deux. C'est de 9h à 9h30, évidemment, sur RTL. Et puis, il y a des livres aussi, aux éditions du Cherche Midi, L'Alpe d'Huez.
Les 25 ans, c'est
les
25
festival,
en fait, c'est 25
du festival
ans, le
de
l'Alpe
d'Huez, le festival de la comédie à l'Alpe d'Huez. Donc c'est toujours la promesse finalement des moments de rigolade au cinéma et des moments qui vont nous faire du bien. Et puis la sortie mi-février du livre officiel du tournage Notre-Dame brûle, coécrit avec Jean-Jacques Hano aux
Journal
éditions
de bord du film qui sera aussi un événement. Je reviendrai vous voir.
Ah ben avec plaisir. D'accord. Vous savez quoi? Parce qu'évidemment ça c'était un jour J, Notre-Dame.
Oui.
Merci beaucoup à vous deux, messieurs. Je vous souhaite de très belles fêtes et maintenant vous pouvez et disparaître.
On est parti.
Salut.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.